Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Avec ses 73 000 élèves scolarisés dans l'Académie de Toulouse, sans oublier les 4 500 élèves de l'enseignement agricole, l'enseignement catholique a fait sa rentrée. Certains établissements sont sous tutelle diocésaine, d'autres sont sous tutelle congréganiste. Quelle richesse, quelles difficultés ces tutelles offrent-elles? À quels défis les établissements privés sont-ils aujourd'hui appelés? Établissements privés sous tutelle diocésaine ou congréganiste, quelle différence? Comment les établissements scolaires catholiques définissent-ils leur pastoral, leur programme? Qu'entend-on par caractère propre? Nous en parlons aujourd'hui avec Mélodie Trifot, chef d'établissement de l'école Notre-Dame à Toulouse. Bonjour madame.
Bonjour.
À vos côtés, Guido de Palma, délégué de tutelle de la compagnie Marie Notre-Dame. Bonjour monsieur.
Bonjour madame Duché.
Commençons par cette question de la tutelle. Et là, vous allez un petit peu faire de la pédagogie pour nous. Oui. Quelle différence, Guido de Palma, entre un établissement sous tutelle diocésaine et un établissement sous tutelle congréganiste?
Alors, je pourrais vous dire, mais en guise de première provocation, qu'il n'y a aucune différence. C'est-à-dire qu'on appartient à une seule et même famille, la famille de l'enseignement catholique, qui, comme vous venez de le dire, scolarise 2 062 000 élèves sur les 12 millions d'enfants scolarisés en France.
À l'échelle nationale.
À l'échelle nationale, absolument. Et nous sommes une même famille. Et on tient aujourd'hui à le rappeler, c'est important pour nous. Après, effectivement, il y a deux possibilités au sein de l'enseignement catholique. Il y a un encadrement, un accompagnement diocésain. Donc, il y a des écoles dites diocésaines et des écoles dites congréganistes. Aujourd'hui, en fait, vous avez 686 000 élèves scolarisés par les congréganistes, qui correspondent environ aux 33% de l'enseignement catholique. 188 000 dans le premier degré et 497 000 dans le second degré.
Voilà. Ah, il y a donc plus d'élèves dans le second degré.
Tout à fait. Même si l'histoire des congréganistes est une histoire qui démarre dans le premier degré. Mm-hmm. Parce qu'en fait, suite aux lois de début de siècle dernier, finalement, les congrégations s'étaient retrouvées uniquement dans la gestion des écoles du premier degré. Cependant, effectivement, aujourd'hui, pour vous donner une idée, nous suivons, nous accompagnons 4400 écoles, 1600 collèges, 1100 lycées. Et donc, vous venez de les citer,
ça me fait particulièrement plaisir. Pour l'organisme de tutelle de la compagnie Marie Notre-Dame.
Non.
Ça fait un peu beaucoup. Pour tous les organismes de tutelle.
Ça fait vraiment beaucoup.
Les établissements,
oui.
D'accord.
Voilà, je vous parle de l'enseignement catholique en général en France. D'accord. Et 170 lycées agricoles qui nous tiennent particulièrement à cœur.
Mm-hmm. Voilà. Donc vous disiez qu'il n'y avait pas de différence a priori entre ces deux types de tutelle, et pourtant je vois Madame Trifot qui hoche un peu du chef.
Il y a bien sûr une différence, Madame Trifot va vous expliquer laquelle.
Alors je ne sais pas si on peut dire que c'est une différence, une école congréganiste comme celle que je dirige et sous à la fois entre guillemets la tutelle de l'enseignement catholique, mais également surtout sous sa tutelle qui, j'aime bien dire, apporte un souffle en plus, apporte une inspiration, apporte un petit truc en plus.
C'est d'actualité
en effet. Ça implique qu'il y a un projet éducatif de la tutelle, un projet éducatif et pastoral.
Et qui est donc inspire. Commun à tous les établissements qui dépendent de la même tutelle?
Qui dépendent de la même tutelle. Oui. Il y en a un pour les jésuites, un pour la compagnie de Marie Notre-Dame, etc. Ce projet éducatif et pastoral, il se concrétise par des actions communes, par des projets communs, par le fait que, par exemple, on a un plan de formation interne à notre tutelle, avec des formations qui permettent d'accompagner les éducateurs de nos établissements dans leurs problématiques quotidiennes, au reflet des axes éducatifs de notre projet.
Mm-hmm. Il y a, alors on l'a pas encore nommé, hein, mm. en fait, il y a un charisme, voilà. Les congrégations vivent et continuent à faire vivre leur charisme. Ce charisme, il se concrétise avec une tradition éducative, certaines orientations pastorales, même si, selon nos statuts, hein, les articles 178, 180 et 196, indiquent que c'est l'évêque qui donne les orientations pastorales, bien entendu.
Pour les organismes de tutelle aussi ? Pour les établissements
pour
sous tutelle ?
Pour tout l'enseignement catholique.
Pour tout l'enseignement catholique, d'accord.
Oui, bien sûr. L'évêque représente l'Église.
D'accord, mais alors comment vous faites cohabiter justement ce charisme propre de la communauté qui va se refléter dans les établissements et ces directives ou en tout cas cette tonalité qui est donnée par l'évêque?
Alors on le fait avec beaucoup de bienveillance de deux côtés. De deux côtés. Nous, si vous voulez, comme le disait ma collègue Mélodie, on fait vivre un souffle. Hein, et on est donc dans cette tradition, dans une ce qu'on appelle chez nous une fidélité créatrice. Il est évident que nous le faisons conformément aux règles qu'on s'est données en tant qu'ensemble de l'enseignement catholique. Donc, ce petit plus qu'on amène dans des écoles congréganistes n'est surtout pas quelque chose qui va contre une ligne générale et contre notre propre famille. Mais c'est
oui,
un plus.
Oui, oui.
C'est une tradition,
oui.
C'est une sensibilité qui souvent a traversé les siècles et qui a fait preuve de bonté.
Mmh. Voilà. J'aimerais bien que vous nous disiez concrètement comment ça s'articule, ce charisme qui est donné par votre organisme de tutelle, en l'occurrence celui de la compagnie Marie Notre-Dame. Comment dans votre établissement, Mélodie Trifot, vous pouvez déployer en fait ce charisme?
Bon, en fait, c'est une vraie cohabitation créative, en fait. Hein. Il n'y a pas de compétition. Concrètement, moi, en tant que chef d'établissement, je bénéficie de l'aide, de l'inspiration du diocèse. Je collabore avec les chefs d'établissement du diocèse, mais également avec les chefs d'établissement de la compagnie de Marie Notre-Dame qui sont un peu partout en France et à l'étranger. Ça implique qu'il faut faire un... Lorsqu'on revoit par exemple notre projet d'école, eh bien on s'inspire à la fois du projet éducatif de notre compagnie, de notre tutelle, à la lumière aussi des axes du moment de l'enseignement catholique.
Mmh.
Concrètement, ça veut dire qu'on suit, par exemple, en termes de formation, on va suivre à la fois des conférences et des formations qui sont apportées par la direction diocésaine, et à la fois les réunions, les formations, les conférences, aussi tous ces apports qui sont très aidants, qui nourrissent notre pratique, qui sont apportés par la tutelle.
Mmh.
En fait, c'est une double inspiration qui nous permet de trouver notre style éducatif et pastoral et de trouver notre caractère propre.
Mmh.
C'est assez riche, en fait. C'est assez riche, et c'est vrai que de mon expérience, je trouve que c'est une grande chance d'avoir ces deux inspirations, parce que on se sent doublement ancré. Et quand on se sent doublement ancré, on peut clairement offrir ça aux élèves que l'on accueille. Hein. Nous, on essaye vraiment de faire de nos établissements un terreau fertile, fécond, et on bénéficie voilà de beaucoup beaucoup d'aide des deux côtés.
Je tenais à ajouter, donc pour être précis, pour apporter vraiment une réponse claire à votre question, le directeur diocésain est choisi et nommé par l'évêque.
Oui.
Hein, et selon l'article 207, toujours des statuts de l'enseignement catholique, coordonne l'ensemble des écoles catholiques. Cependant, l'exception de nos congrégations nous permet d'envoyer en mission in nomine ecclesiae, au nom de l'Église, des chefs d'établissement. Et c'est, si vous voulez, une exception respectueuse de l'histoire des congrégations en France qui nous est accordée et que nous faisons vivre hein, par notre action et notre accompagnement.
Et vous les envoyez en mission où ? À quel endroit ?
Ah, bien entendu, devant l'évêque.
D'accord.
Devant l'évêque, à la cathédrale. Ça se passe toujours d'une façon très formelle. Et en fait, il n'y a pas des envois en mission spécifiques pour les congrégations. On est tous réunis pour les messes de rentrée.
Vous savez ce que c'est.
Hein. Donc, ça se passe normalement pendant ces jours-ci. Et en fait, le directeur diocésain, aussi délégué épiscopal, envoie en mission les chefs d'établissement du diocèse et les différents délégués de tutelle congréganiste envoient en mission leur chef d'établissement. Voilà. Mais toujours devant l'évêque.
Mais toujours devant l'évêque. Au niveau pastoral, est-ce que, parce que vous êtes un établissement qui est sous tutelle congréganiste, vous avez comme vous le disiez tout à l'heure, je reprends votre exposition, un petit truc en plus, et quel est-il ?
On a tous un petit truc en plus qui se définit en fonction de l'histoire de notre établissement, en fonction de du projet éducatif de la tutelle. Chez nous, comme dans beaucoup d'écoles de la Compagnie de Marie Notre-Dame, pas seulement, notre projet d'animation pastorale. Alors la pastorale, c'est tout ce qui se passe dans l'établissement. Hein. Il n'y a pas un moment pour la pastorale, un moment pas pour la pastorale.
La pastorale, c'est
l'accueil, c'est la vie, c'est le regard que l'on porte sur l'enfant, sur la famille, sur les collègues, c'est une façon de vivre, c'est un sourire. Donc c'est pas juste une heure dans l'emploi du temps, ça on y tient fort.
Oui, c'est pas cloisonné.
Pas du tout cloisonné. Dans le respect du contrat que nous avons avec l'État, sans aucun souci, on y reviendra peut-être. Chez nous, les enfants de la petite section au CM2 ont tous une heure d'école en plus, qu'on appelle la 25e heure, qui est obligatoire pour tous, qui est donc du coup hors contrat, en dehors des 24 heures obligatoires, et qui est une heure que tous les enfants vivent, que les enseignants animent bénévolement, qui est une heure de formation humaine et spirituelle. Qui est une heure où on leur apporte tout ce qui n'est pas au programme, mais que nous, on juge essentiel en lien avec notre projet éducatif et pastoral, celui de la Compagnie de Marie Notre-Dame. Pendant cette heure-là, on fait exclusivement en maternelle de l'éveil à l'intériorité. C'est-à-dire qu'on découvre tout ce qui est invisible et qui nous suit partout. Donc la petite voix dans ma tête, mes souvenirs, mes émotions, les cinq sens, tout ça on les voit pas, on les touche pas, pourtant ça existe. Donc on aide les enfants à construire
avec l'idée de
la
Dieu,
spiritualité. Avec l'idée de l'humain. Puisque c'est une heure obligatoire pour tous. Donc là, on est vraiment sur l'être humain, sur l'éducation intégrale de l'enfant d'un point de vue de chair et d'os et d'un point de vue spirituel. Sur cette heure-là, on découvre les grandes religions monothéistes d'un point de vue culturel, historique, architectural. On fait venir plein d'intervenants parce qu'on a beaucoup, beaucoup de gens qui se rendent disponibles pour aider les enfants à construire ce concept
très abstrait. Culture religieuse.
À ce moment-là, ça peut être de la culture religieuse. On y fait aussi de l'EARS, donc éducation affective, relationnelle et sexuelle. Dès la petite section, on enseigne le consentement. On enseigne ce que c'est l'amitié, ce que c'est le corps. On plante des graines pour aussi apprendre aux enfants qu'ils sont faits d'émotions, que ce sont des êtres qui entrent en relation. Et on croit très fort qu'il ne faut pas attendre les cours de sciences de CM2 pour parler de tout ça. Cette heure-là, c'est une heure qui nous engage. On prend vraiment notre responsabilité d'accompagner les enfants d'un point de vue humain. Et ça, c'est un vrai choix pastoral qui est fait et qui est rendu possible au nom de notre caractère propre et qui est complètement soutenu par notre tutelle. Donc voilà, concrètement, comment ce petit truc en plus peut s'illustrer
dans la pastorale.
C'est la question de l'éducation intégrale.
Eh oui, c'est ça.
J'imagine, vous connaissez bien, l'élève pour nous n'est pas un cerveau avec un cartable. L'élève est beaucoup plus. L'élève est une globalité qu'il faut éduquer dans son corps, dans son âme, dans son esprit, et qu'il faut éduquer un certain discernement, et on y tient beaucoup.
Mmh. Alors, vous disiez, Mélodie Trifot, que ce sont les professeurs bénévolement, les enseignants bénévolement, qui assurent cette heure, cette 25e heure. Oui. Tous ne sont pas forcément chrétiens, tous n'ont pas forcément une formation l'éducation intégrale. Comment faites-vous pour leur permettre d'avoir les outils?
Alors déjà, je ne suis pas seule, hein, je suis vraiment accompagnée par mon APS, Alix Delec, qui est d'une immense aide, fait un travail de préparation. On collabore ensemble et ensuite on prépare tous les outils, on forme les enseignants à pouvoir mener à bien ces séances. En fait, la posture de l'enseignant à ce moment-là, c'est une posture éducative. C'est pas une posture évangélisatrice. Mmh. Ça, c'est ce qu'on peut faire lors de l'éveil à la
foi,
qui est sur la périscolaire.
C'est pas du témoignage, c'est de la transmission.
C'est de la réflexion. C'est, en fait, on n'est pas des spécialistes de théologie, mais des spécialistes de l'éducation et de l'enfance. Et on se nourrit à la fois de notre objectif, de ce que l'on veut se transmettre, mais on se nourrit aussi des questions des enfants. On apprend ensemble. Les enseignants, dans l'enseignement catholique, ils passent ce que l'on appelle un accord collégial. En fait, on vérifie qu'ils sont en connaissance des axes du projet de l'enseignement catholique et qu'ils sont OK pour vivre dans cet écosystème, dans cet univers. On ne leur demande pas de croire, on leur demande de dire.
Et d'adhérer au projet quand même, quand vous les recrutez.
Évidemment, il faut qu'ils adhèrent au projet. Après, c'est pas vrai, on y reviendra peut-être, c'est pas nous qui les recrutons. Nous,
oui,
en revanche,
plus,
notre responsabilité, c'est de les coopter, c'est de les convaincre et c'est de les faire grandir eux aussi en tant qu'être humain. Et ça qui est assez magique dans cette heure-là, c'est qu'en fait, l'objectif, il est sur les enfants. Vraiment faire germer plein de petites graines, mais en fait les adultes qui arrivent sur notre établissement, quelle que soit leur mission éducative, il y a aussi des choses qui se passent pour eux. Ça les bouscule aussi en tant qu'être humain, dans leur spiritualité, peut-être dans leur foi, et ça de temps en temps ils nous font la confiance de nous raconter, mais c'est vraiment un moment de vie où tout le monde grandit sur un thème.
Ah oui, c'est édifiant, effectivement. On imagine spontanément l'organisme de tutelle comme un organisme qui serait un petit peu au-dessus des établissements, mais en fait, j'ose imaginer qu'il y a une interaction entre les établissements et l'organisme de tutelle, Guido de Palma.
Vous savez que dans l'Église en général, depuis quelque temps, on ne parle surtout pas dans une vision hiérarchique.
De verticalité.
On aime bien parler de pyramide renversée. Et alors, dans le cas d'un organisme de tutelle, c'est encore autre chose. C'est encore plus complexe. Parce qu'un organisme de tutelle, il est un accompagnement et il est en subsidiarité. Alors, vous connaissez, tout à l'heure, j'aurai l'honneur de parler de la doctrine sociale de l'Église. J'étais invité par une association Acte à Toulouse qui m'a demandé de plancher sur ce thème et je parlerai entre autres de subsidiarité. Vous savez que la subsidiarité est un concept fondamental dans le monde de l'Église et en fait nous on est un pas en arrière, un accompagnement, on prend soin et s'il y a besoin on est au même niveau du chef d'établissement à ses côtés. Et on avance ensemble. Mais le principe de la subsidiarité s'applique entièrement dans nos tutelles. Donc le chef d'établissement, il œuvre dans une totale autonomie, bien entendu, dans le respect de l'organisme qui le contient et qui l'a envoyé en mission. Et donc ça se passe très bien.
Donc il y a une liberté, une confiance, et puis quand même un contrôle, justement, puisque vous dites qu'il faut quand même un respect.
Nous n'aimons pas, il y a, si vous voulez, des verbes interdits chez nous.
Hein. Alors
donc,
contrôle,
le verbe contrôle, inspection, inspecter plutôt, on s'interdit complètement ces verbes. Disons, il y a un soin qui est pris, qui est pratiqué et qui nous permet aussi de se dire certaines grandes vérités. Quand les choses ne vont pas, on a le courage et on a le devoir de dire regarde, constate avec moi que ce point-là ne peut pas continuer ainsi. Et donc, l'exercice, il est beaucoup plus complexe, vous voyez, par rapport à une organisation classique. Mais lorsqu'on y arrive, le résultat sera sans doute plus marquant.
Mais concrètement, l'exercice de la tutelle, il prend la forme d'une visite qu'on appelle la visite de tutelle, vraiment au sens de la visite, hein, de la visitation même. Tous les 3 ans, les établissements sont visités par une équipe de la tutelle. Donc il y a évidemment toujours un monsieur de Palma, un collègue chef d'établissement, un collègue président d'organisme de gestion. Et on prépare cette visite. Alors, on peut parler d'audit, mais en fait, c'est vraiment plutôt comme une balade argumentée et bien préparée.
C'est pas une inspection.
Il s'agit pas d'une inspection. C'est vraiment faire un état des lieux de nos fiertés, des sujets sur lesquels on est encore en chemin, au travers. En général, on choisit un thème qui est un des axes du projet de la Compagnie de Marie Notre-Dame. Donc ça peut être, voilà, si le thème c'est tendre la main, si le thème c'est l'accueil de tous, on va préparer 2-3 jours de visite où on va présenter comment dans l'établissement, depuis 3 ans, concrètement, on met en valeur, on met en action plein d'axes, plein de projets pour être dans la suite de ce projet-là. Et ça laisse un écrit avec des conseils. Donc on est vraiment dans la fierté de présenter. C'est pas que la fierté du chef d'établissement, hein, c'est n'importe quelle personne de l'établissement, les enfants, les parents, tout le monde peut donner son avis. Et avec ensuite un retour extérieur de... voilà, je valorise tous ces axes, je valorise que vous avez fait tel projet, je valorise que vous avez progressé sur ça, et peut-être vous avez encore besoin d'être accompagné sur tel axe. Donc c'est vraiment du coaching d'équipe.
Mm-hmm. Par contre, alors, c'est pas pour vous dévancer sur une question que sans doute, j'imagine, on retrouvera vers la fin de l'interview, mais étant donné que par certains, nous sommes accusés d'une certaine opacité, hein, je parle du système enseignement catholique dans sa globalité, sachez qu'un délégué de tutelle, comme un directeur diocésain, ils sont là aussi. On n'aime pas le dire, mais... pour regarder dans le détail certaines situations. Alors, vous voyez comment je tourne autour du verbe contrôler, et pour vérifier certaines situations qui peuvent nous conduire à des décisions fortes. Mm-hmm. Nous sommes, si vous voulez, assujettis aux mêmes règles, et surtout par notre contrat d'association avec l'État. Nous sommes assujettis à un certain nombre de règles et on y porte une très grande attention et on tient à le souligner. Oui.
Je vous propose de marquer une pause musicale. Nous écoutons On écrit sur les murs, cette chanson qui a eu un certain succès, interprétée par les Kids United.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons le écrit, qu'un temps la nuit tout s'efface. des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines.
On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime.
Isabelle Duché.
De retour dans cette émission Vivante Église où nous faisons le point sur les établissements privés, les établissements de l'enseignement catholique qui sont sous tutelle diocésaine ou congréganiste. Quelles sont leurs différences, quels sont leurs défis, leurs difficultés. Je suis en présence de Guido de Palma, qui est délégué de tutelle de la compagnie Marie Notre-Dame et Mélodie Trifot, chef d'établissement de l'école Notre-Dame à Toulouse. Guido de Palma, peut-être avant de poursuivre sur cette deuxième partie, vous pourriez nous rappeler quand même les chiffres de cette compagnie Marie Notre-Dame.
Oui, alors 13 groupes scolaires en France, nous scolarisons environ 13 000 élèves et nous faisons partie de ce qu'on appelle la famille ignatienne, donc une dizaine de congrégations qui scolarisent 110 000 élèves dans l'Hexagone.
Mmh. Voilà. Alors, je voudrais qu'on revienne sur ces questions d'actualité. Il y a beaucoup de questions qui se posent à propos de l'enseignement catholique. Il a été beaucoup décrié au printemps dernier. On ne va pas revenir sur l'historique, notamment de l'école Saint-Stanislas. Il y a la question du financement, la question de la mixité sociale, la question aussi du caractère propre, parce que parfois, ça ne convient pas à tout le monde. C'est source d'incompréhension. Si nous parlons des difficultés de l'enseignement catholique en général, puisque vous faites évidemment partie... Vous, organisme de tutelle, enfin, établissement sous tutelle congréganiste, vous vous mettez dans ce grand tout de l'enseignement catholique et en fait, vous avez les mêmes difficultés que tout établissement de l'enseignement catholique. Au niveau financier, quelles sont ces difficultés et qu'est-ce que vous voudriez rétablir comme vérité?
Alors déjà, en effet, merci de nous permettre d'éclaircir les choses. L'enseignement catholique a été beaucoup décrié et je pense que c'est important de voir ça comme une opportunité dans nos écoles. On est formés, on forme les enfants à la communication non violente et faut voir toute demande, qu'elle soit agressive ou pas, accusatrice ou pas, comme une opportunité d'éclaircir les choses. Et je pense que l'enseignement catholique a tout à gagner à dire ce qui n'était pas assez communiqué avant.
Donc c'est une occasion de dialogue.
C'est vraiment une occasion de dialogue. Et en effet, comme mon collègue le disait, il n'y a pas d'opacité, en fait, c'est très clair. Alors, d'un point de vue financier, c'est ça votre mm-hmm. question? Alors c'est très simple, hein, les revenus d'une école enseignement catholique, il n'y a pas de bas de laine, il n'y a pas de mécène, il n'y a pas de donateur caché, ça c'est vraiment un fantasme qui n'existe pas. Croyez-moi, il n'y a pas de Madeleine. Les produits de nos établissements viennent de deux endroits. Des contributions familiales de nos établissements, qui aussi, croyez-moi, surprennent beaucoup les familles lors des rendez-vous d'inscription, qui s'imaginent que ça va être excessivement cher. En fait, on a un modèle économique dans tous nos établissements qui est de proposer des tarifs en fonction des revenus des familles, en fonction de leur quotient familial. On a vraiment la volonté de pouvoir accueillir tout le monde et pour ça, d'avoir une tarification juste, mais vraiment au plus juste. Donc, ça peut être de quasiment rien. Enfin, on peut y avoir 5-6 tranches. La question financière ne doit jamais être une question qui empêche une famille de vouloir scolariser nos enfants, leurs enfants dans nos établissements. Le deuxième revenu des établissements primaires, ce sont les forfaits communaux. de la ville dans laquelle l'établissement est. Donc, par exemple, nous percevons un forfait communal de la mairie de Toulouse seulement pour les enfants domiciliés à Toulouse. Mais c'est un transfert d'argent, puisqu'en fait, cet argent, il est perçu par la municipalité dans les impôts locaux. Donc, en fait, comme les enfants des familles de notre établissement ne sont pas scolarisés dans le public, ils ne sont pas à la charge de la municipalité. Donc, ils nous donnent une subvention en échange de cela. Pour autant, c'est important aussi de le dire, un enfant dans un établissement privé coûte deux fois moins cher qu'un enfant dans un établissement public.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Alors ça je ne sais pas si je peux vous répondre, parce qu'en fait, je ne maîtrise pas les comptes des écoles publiques. Je maîtrise ceux des écoles privées.
Vous faites plus d'économique dans le...
Mais nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Il faut être excessivement créatif, avoir des modèles de gestion à la fois humaniste, humain, pour pouvoir accueillir tout le monde et à la fois pour pouvoir continuer à faire vivre notre projet. Donc c'est un jeu d'équilibriste très fin, très complexe, qui peut, très régulièrement, on peut être mis en difficulté. Vous voyez, par exemple, la mairie de Toulouse a arrêté, il y a quelques années, de subventionner les centres de loisirs de nos établissements. Donc, faut savoir que l'accueil sur temps périscolaire est à la charge normalement de
la mairie,
de l'autorité territoriale, de la mairie. Jusqu'à présent, il y avait une subvention et il y a 3 ou 4 ans, date m'échappe, la municipalité de Toulouse a décidé de ne plus.
Donc, c'est à la charge des établissements maintenant.
Donc, c'est à la charge des établissements. Donc, voyez comme en fait, alors que nos prévisionnels peuvent être très clairs et vraiment très justes pour pouvoir offrir l'accueil à la hauteur des besoins des enfants, une décision extérieure peut nous mettre en difficulté, nous bouleverser. Donc, quand je vous dis, croyez-moi, il n'y a pas de bas de laine dans nos écoles et il faut que l'on fasse vraiment preuve de créativité et d'avoir vraiment en tête la notion de l'économie, c'est vraiment la vérité. Les établissements qui peuvent dépenser beaucoup d'argent, c'est vraiment de l'ordre du fantasme.
Mm-hmm. Guido de Palma, vous vouliez compléter ?
Oui, la question du CLAE, particulièrement à Toulouse, est une question à part entière. Effectivement, et c'est une question qu'en ce moment nous avons avec notre collègue à l'ordre du jour. On aura d'ailleurs un conseil d'administration sur, entre autres, sur ce point ce soir à Toulouse. Comment vous dire ? C'est l'exemple qu'il faut vraiment rappeler. Aujourd'hui, on a un coût du CLAE. Alors, je ne savais, je vous donnerai pas les chiffres précis parce que ça se fait pas. Mais on a un coût du CLAE de X. Hein. Ce X vient s'ajouter dans les charges de l'établissement et ce X, on va se le retrouver fatalement dans le déficit de notre bilan. Mais vraiment tel quel. C'est-à-dire que effectivement, l'action régulatrice de l'État par rapport à certaines subventions, à certaines contributions, influence directement notre équilibre qui est déjà assez faible, qui est un équilibre déjà assez compliqué, notamment dans le premier degré. Mmh. Le premier degré, on sait, on connaît tous, je pense, la question des dites écoles isolées. Et vous le savez, on peut être une école isolée, même dans le centre-ville d'une très grande ville comme Toulouse ou comme Paris. Voilà. Une école isolée qui n'est pas adossée, alors je n'aime pas du tout ce terme, mais bon, on parle d'adosser une école à un groupe scolaire. Donc une école qui n'est pas adossée a un équilibre financier extrêmement
fragile.
Merci.
Autre reproche fait à l'enseignement catholique, c'est celui de rassembler des élèves de bon niveau ou des élèves qui ne sont que d'un certain milieu. Qu'est-ce que vous répondez?
Alors, c'est la vraie question. Ouais. C'est la vraie question, vous le savez, qui nous voit appeler en cause aujourd'hui. Comme j'aime le rappeler, nous subissons une coïncidence socio-géographique. Ça veut dire que autrefois nos établissements s'implantaient, alors mis à part dans la ruralité, hein, parce que lorsqu'on parle de ça, tout le monde oublie systématiquement la ruralité. Oui. Vous savez, parler de la ruralité n'arrange pas forcément tout le monde. Nous, sur la question, on a plutôt la conscience propre. Et si vous voulez, on reviendra sur cette question. Mais pour parler des grands centres-villes, des villes importantes en France, oui, c'est vrai. Nous avons un certain public, ce public plutôt aisé, fréquente nos établissements. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, en début de siècle dernier, nos écoles se sont implantées surtout dans les centres-villes, où il y avait les ouvriers, où il y avait les gens, les classes populaires. Et effectivement, il y a eu un remplacement historique de ces classes populaires et de ces ouvriers par des personnes plus aisées qui se sont retrouvées comme écoles de quartier, certaines écoles et certains noms bien connus. Donc, il est vrai, comme le rappelle l'historien Claude Lelièvre, cette guérilla entre public et privé est plutôt une stigmatisation d'une situation qui dépasse tout le système. Donc j'oserais dire que c'est un petit peu trop facile aujourd'hui de tenter de nous faire porter le chapeau sur cette question. Attention, qui doit nous inviter à nous améliorer, à faire davantage, à nous ouvrir encore davantage, comme on le fait déjà, à des classes sociales différentes, à continuer à pratiquer ce qu'on a toujours pratiqué, d'être réellement une école pour tous. Donc, cultiver et accueillir des plus de boursiers, faire davantage. Pour nous, c'est une opportunité historique, unique, pour montrer une fois de plus les sentiments par lesquels on est animé.
Élodie Trifot.
Oui, pour autant, la mixité sociale, elle existe vraiment dans nos établissements, vraiment. C'est vrai que, alors je ne vais pas lister l'ensemble des établissements, en tout cas de Toulouse, que je connais, mais l'immense majorité des chefs d'établissement, des équipes, nous avons à cœur d'être ouverts à tous. Alors l'outil, en effet, d'avoir des contributions familiales en fonction du quotient familial, est très pertinent parce que ça nous permet d'accueillir des familles de catégories socio-professionnelles vraiment moins aisées et de les accueillir vraiment comme tout le monde. La majorité, enfin il n'y a pas de majorité, il n'y a pas un type d'élève. Nous on te croit très fort que l'entre-soi n'est pas fertile, que les enfants ils apprennent en rencontrant la différence. Et nos établissements aujourd'hui, on peut être fiers d'avoir, d'ailleurs nos IPS, nos indices positionnement social qui permettent justement d'évaluer les types de catégories socio-professionnelles de chaque établissement. Souvent est bien plus élevé dans certains établissements publics de centre-ville. Mmh. Enfin, c'est le cas à Toulouse. Donc nous, on croit que les enfants apprennent en rencontrant toute l'altérité. Dans mon établissement, il y a des enfants catholiques, des enfants musulmans, des enfants juifs, des enfants orthodoxes, des enfants athées. D'ailleurs, la question de la religion ne l'aurait jamais posée, mais on finit par savoir parce qu'ils nous parlent.
Mais justement, comment vous faites, et ce sera ma dernière question, comment vous faites vis-à-vis de tous ces enfants qui ne sont pas de religion catholique, comment vous leur faites rencontrer le Christ, si on peut dire, puisque c'était quand même un des mots de Philippe Delorme là, qui a été interviewé à la rentrée sur Radio Notre-Dame et RCF. Il a dit, nous, quand on parle de projet éducatif, on veut qu'il soit imprégné de l'évangile du Christ. Mmh. Et en fait, on veut que les jeunes soient éveillés à une culture religieuse chrétienne, qu'ils aient la possibilité de rencontrer le Christ. Donc là, il y a quand même une volonté qui est très claire.
Alors après, du fait de notre contrat avec l'État, nous n'avons pas à avoir une action évangélisatrice sur nos élèves. Ça, il faut être très clair. En revanche, nous avons à avoir un accueil. Et le Christ a dit « Laissez venir à moi tous les petits-enfants ». Et c'est ça notre posture, en fait. Notre posture, c'est qui que tu sois, d'où que tu viennes, tu as de la valeur et tu as la même valeur à mes yeux. Et tu auras le même accueil, la même éducation, le même regard porté sur toi. Et ça, c'est ça notre caractère propre.
Alors, lorsqu'on parle de diversité, on parle de diversité sociale, culturelle, religieuse, et scolaire. Donc ces quatre éléments sont pris en compte dans l'ensemble de nos établissements. Alors la question que vous posez est une question essentielle. Alors nous existons, vous le savez, grâce à la loi de Bray 1959 qui reconnaît notre caractère propre, qui donc nous donne la possibilité d'entrer sous contrat d'association avec l'État. Alors, dénoué de cette contrat propre, donc on serait hors contrat, on serait hors loi plutôt, pardon. Absolument, nous proposons, notre proposition évangélisatrice est là. Nous proposons une rencontre avec le Christ, nous proposons une rencontre avec soi-même, avec l'élève, avec lui-même, et qui passe par un message qui est ouvert, mais qui n'est pas obligatoire. Et toute la nuance est là. Vous voyez, nous ne faisons pas des listes de certains élèves et d'autres élèves. Vous voyez, ça n'existe pas. Mais nous avons la même proposition pour tous. Et après, vous me laisserez juste ajouter cette dernière chose. Ça, c'est des questions, comment vous dire, faciles dans nos beaux établissements, dans les centres-villes. Mais nous sommes aussi, comme je le disais tout à l'heure, dans la ruralité. Nous sommes dans des quartiers extrêmement défavorisés de grandes villes comme Marseille. Je pense en ce moment à notre cher Chevel Saint-Just et je pense au lycée agricole de Beaumont-de-Lomagne. Comment vous dire, dans ces réalités-là, on n'a pas forcément le temps de se poser ces questions. On le fait avec une naturalité conforme à nos principes qui nous animent et bien entendu à la loi de Bray qui nous permet d'exister.
Merci beaucoup. Merci Guido de Palma, délégué de tutelle de la compagnie Marie Notre-Dame. Merci Mélodie Trifot, chef merci d'établissement de l'école Notre-Dame à merci. Toulouse. Et bonne journée dans notre région.
Merci.
Un grand merci. Au revoir.